Chapitre 58. Mélanie. Le pion de Nina partit en promenade avec Justin. Elle frappa au portail peu de temps avant 11h du matin, une heure où les gens comme il faut vont à la messe. Lorsque Kelley l'invita à entrer, elle refusa poliment et demanda l'autorisation d'emmener Justin, le garçon, disait-elle, faire un tour en voiture. Je réfléchis quelques instants. L'idée de voir Justin quitter l'enceinte de notre demeure me troublait. De tous les membres de ma famille, c'était lui mon préféré. Mais le fait que la négresse n'entre pas dans la maison avait ses avantages. En outre, cette excursion pouvait contribuer à résoudre le mystère de la cachette de Nina. Finalement, la fille attendit près de la fontaine pendant que l'infirmière Oldsmith revêtait Justin de ses plus beaux atours, un short bleu et une chemise de marin, et il rejoignit la négresse dans sa voiture. Celle-ci ne m'apprit rien. C'était une Datsun, presque neuve, qui avait l'aspect et l'odeur d'une voiture de location. La fille était vêtue d'une jupe grège, de hautes bottes et d'un chemisier beige. Elle n'avait apparemment ni sac à main ni portefeuille susceptible de contenir des papiers d'identité. Mais si elle était l'instrument conditionné de Nina, elle n'avait plus d'identité, bien sûr. Nous avançâmes lentement le long d'East Bay Drive, puis empruntâmes la voie express pour nous diriger vers Charleston Heights. Là, près d'un petit parc qui donnait sur les installations portuaires, la fille se gara, attrapa une paire de jumelles, le seul objet posé sur la banquette arrière, et conduisit Justin vers une grille en fer forgé. Elle étudia l'amas de ponts roulants noirs et de navires gris, puis se tourna vers moi. « Mélanie, es-tu prête à sauver la vie de Willy tout en protégeant la tienne ?»« Bien sûr !» répondis-je de mon contralto enfantin. Je ne me concentrais pas sur ses paroles, mais sur le break qui venait de se garer à l'autre bout du parking. Il était conduit par un homme dont le visage était dissimulé par les ombres. La distance et une paire de lunettes noires. J'étais sûre d'avoir aperçu ce véhicule derrière nous quand nous roulions dans East Bay Drive, peu de temps après avoir quitté Calhoun Street. Mon excitation enfantine de façade m'avait permis de dissimuler les regards en coin de Justin. Bien. La négresse me répéta alors cette histoire invraisemblable de gens doués du talent organisant une version bizarre de notre jeu sur une île perdue en mer. « En quoi puis-je t'aider ?» demandai-je, faisant adopter au trait de Justin une expression de souci et d'intérêt. Presque personne ne se méfie d'un enfant. Pendant que la négresse m'exposait ses plans, je réfléchis au choix qui se présentait à moi. Jusqu'ici, je n'aurais guère retiré de bénéfice en utilisant la fille. Mon coup de sonde expérimental m'avait montré que, A, soit Nina l'utilisait mais n'était nullement disposée à me résister si je tentais de lui en retirer le contrôle, B, soit la fille était un pion superbement conditionné qui ne nécessitait aucune supervision de la part de Nina ou de quiconque l'avait conditionné, C, soit personne ne l'utilisait. À présent, les choses avaient changé. Si le conducteur du break avait un rapport quelconque avec la négresse, utiliser celle-ci était un excellent moyen pour moi d'obtenir des informations. « Tiens, regarde dans les jumelles, » dit-elle en les tendant à Justin. « C'est le troisième navire à partir de la droite. » Je me glissais dans son esprit au moment où je prenais les jumelles. Je la sentis sursauter. J'entreaperçus l'étrange graphique sur un oscilloscope, un appareil qui m'était devenu familier depuis que le docteur Hartmann en avait installé un dans ma chambre, puis je m'emparai d'elle. La transition fut aussi souple que la nouvelle puissance de mon talent me permettait de l'espérer. La négresse était jeune et robuste. Je sentais la vitalité qui l'habitait. Une telle force risquait de m'être utile dans les minutes à venir, pensais-je. Je laissai Justin près de la grille avec ses ridicules jumelles et me dirigeai vers le break d'un pas vif, espérant que la fille avait apporté quelque chose susceptible de me servir d'arme. Le véhicule était garé à l'autre bout du parking, et le soleil se reflétait sur son pare-brise, aussi constatai-je qu'il était vide seulement lorsque j'arrivais à mi-chemin. J'ordonnai à la fille de s'arrêter et de regarder autour d'elle. Il y avait plusieurs personnes dans le parc, un couple de gens de couleur se promenant près de la grille, une jeune femme, vêtue d'une tenue de jogging, allongée sans honte au pied d'un arbre, ses mamelons nettement visibles sous le léger tissu de son t-shirt, deux hommes d'affaires en grande discussion près d'une fontaine d'eau potable, un homme plus âgé à la barbe courte taillé m'observant près de sa voiture, et une famille entière assise autour d'une table de pique-nique. L'espace d'une seconde, je sentis ma vieille panique monter en moi alors que je cherchais du regard le visage de Nina. Il était midi, la journée était splendide, et je m'attendais d'un instant à l'autre à découvrir un cadavre pourrissant assis sur un banc ou dans une voiture, des yeux bleus roulant au sein d'un flot d'asticots. Justine ramassa une branche morte d'un geste nonchalant d'enfant joueur et, l'agitant comme une épée, se rapprocha de la négresse, la suivant de près lorsque je lui ordonnais de se diriger vers le break. Je scrutai l'intérieur de la voiture et découvris une profusion d'appareils électroniques et des câbles qui serpentaient jusque sur les sièges avant. Justine se retourna pour surveiller les autres visiteurs du parc. J'ordonnai à la négresse de regarder sur la banquette arrière. Soudain, je ressentis une légère douleur que je refoulais aussitôt et commençais à perdre le contrôle de mon sujet. L'espace d'une seconde, je sus avec certitude que Nina tentait de me ravir la fille. Puis je me rendis compte qu'elle s'effondrait sur le sol. Je me concentrai sur la conscience de Justine à temps pour la voir tomber le long de la portière, se cognant la tête à la carrosserie. On lui avait tiré dessus. Je reculai sur les petites jambes de Justine, sans lâcher la branche qui m'avait paru si redoutable, mais qui m'apparaissait à présent comme une vulgaire brindille. Les jumelles pendaient toujours autour de mon cou. Je m'approchai d'une table de pique-nique déserte, regardant dans tous les sens, ignorant qui était mon ennemi et de quelle direction il allait surgir pour m'attaquer. Personne ne semblait avoir remarqué l'incident. Personne ne paraissait voir le corps gisant entre le break et un coupé bleu. J'ignorais l'identité de son assassin autant que la méthode qu'il avait employée. Justine avait eu le temps d'apercevoir une tache rouge sur son chemisier beige, mais elle m'avait paru trop petite pour être un impact de balle. Je repensais aux silencieux et aux armes sophistiquées que j'avais vues dans des films policiers avant que j'ordonne à Mr. Thorne de me débarrasser à jamais de mon poste de télévision. J'avais commis une erreur en utilisant la fille. À présent, elle était morte. Du moins, le supposais-je. Je n'avais aucun intérêt à laisser Justine approcher de son corps, et Justine était prisonnier dans ce parc, situé à plusieurs kilomètres de chez nous. Je m'éloignai à reculons du parking, me dirigeant vers la grille. Un des hommes en costume trois pièces commença à marcher dans ma direction, et je me tournai pour lui faire face, agitant la branche et grondant comme une bête sauvage. Il se contenta de me jeter un coup d'œil machinal et se dirigea vers le pavillon qui abritait les toilettes. J'ordonnai à Justine de faire demi-tour et de courir vers la grille, et il fit halte dans le coin le plus reculé du parc, le dos collé au fer forgé glacial. Le corps de la négresse n'était pas visible de sa position. Deux hommes descendirent de leur grosse motocyclette et se dirigèrent vers moi. Kelley et Howard se précipitèrent dans le garage où se trouvait la Cadillac. Howard dut descendre de voiture pour ouvrir la porte. Il faisait très noir là-dedans. L'infirmière Oldsmith me fit une piqûre pour calmer les battements précipités de mon cœur. Une étrange lumière tombait sur le couvre-lit de mer, se reflétait sur les eaux de la Cooper River pour éclairer le visage de Justine, filtrait à travers les vitres sales du garage pour découper la silhouette de Howard qui s'escrimait sur la serrure. Miss Sewell trébuche dans l'escalier. Le nègre dans la cuisine se prend la tête dans les mains et gémit sans raison. La vision de Justine se brouille, s'éclaircit. Il y a des nouveaux venus sur la pelouse. Comme il est difficile de contrôler autant de personnes à la fois, j'ai mal à la tête. Je m'assieds sur mon lit. Je me regarde par les yeux de l'infirmière Oldsmith. Où est le docteur Hartman? Maudite Nina. Je fermais les yeux. Tous mes yeux excepté ceux de Justine. Aucune raison de paniquer. Justine était trop petit pour conduire la voiture, même s'il en trouvait les clés, mais par son intermédiaire, je pouvais utiliser la première personne qui l'apercevrait pour le reconduire à la maison. mais j'étais tellement fatiguée. J'avais tellement mal à la tête. Kelley sortit du garage en marche arrière, manquant écraser Howard, fonçant sans l'attendre le long de l'allée, emportant des fragments de bois pourris sur le coffre et sur la lunette arrière. « J'arrive, Justin. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Et même s'il s'empare de toi, les autres resteront ici avec moi. » Et si ce n'était qu'une manœuvre de diversion? Kelley est parti. Howard rentre dans le garage, tente de se relever. Et si les agents de Nina étaient en ce moment précis occupés à franchir le portail, à escalader les murs? Je me concentrais sur Marvin, le jeune homme de couleur, lui ordonnant d'aller chercher une hache dans l'arrière-cour et de monter la garde devant la porte. Il tenta de me résister. Cela ne dura qu'une seconde, mais il tenta de me résister. Son conditionnement n'était pas achevé. Il subsistait une trop grande partie de sa personnalité. Je l'obligeais à avancer dans la cour, derrière la fontaine. Personne. Miss Sewell le rejoignit et ils montèrent la garde. Je réveillai le docteur Hartman, qui faisait la sieste dans le salon des Hodge, et lui ordonnai de venir à mon chevet. L'infirmière Oldsmith prit un fusil à pompe dans le placard et rapprocha sa chaise de mon lit. Kelley se trouvait dans Meeting Street, tout près de la sortie de Spruill Avenue, qui donnait sur le port. Howard montait la garde dans l'arrière-cour. Je me sentais mieux. J'avais repris le contrôle de la situation. Ce n'était qu'un accès de cette vieille panique que seule Nina pouvait causer. À présent, c'était passé. Si quelqu'un menaçait Justin, je le forcerais à s'empaler sur la grille en fer forgé. Je serais enchantée de l'aider à s'arracher les yeux et... Justin avait disparu. J'avais détourné mon attention de lui et l'avais laissé sous l'emprise de son conditionnement. L'avait abandonné, le dos à la grille, le dos au fleuve. Un garçonnet de 6 ans, défiant le monde avec son bâton. Il avait disparu. Je ne recevais de lui aucune impression sensorielle. Je n'avais senti aucun impact, ni balle, ni coup de couteau. Peut-être avais-je été distraite par la douleur de Howard, par le sursaut de révolte du nègre, ou par la maladresse de Miss Sewell. Je n'en savais rien. Justin avait disparu. Qui viendrait me coiffer tous les soirs? Peut-être que Nina ne l'avait pas tué, qu'elle s'était contentée de l'enlever. Dans quel but? Pour se venger parce que j'avais causé la mort de sa stupide négresse de messagère? Nina pouvait-elle être mesquine à ce point? Oui. Kelley entra dans le parc et le parcourut de sa démarche pesante jusqu'à ce que les gens se mettent à le dévisager. À me dévisager. La voiture de location était toujours là, vide. Le break avait disparu. Le corps de la négresse avait disparu. Justin avait disparu. J'ordonnai à Kelley de poser ses avant-bras massifs sur la rambarde et contemplai le fleuve 12 mètres plus bas. Ses eaux étaient agitées de courants grisâtres. Kelley se mit à pleurer ainsi que moi-même, ainsi que nous tous. Maudite Nina. Tard dans la nuit, alors que j'étais plongée dans le demi-sommeil que me dispensaient les drogues, on frappa violemment au portail. Encore à moitié endormie, j'envoyais dans la cour Kelley, Howard et le jeune nègre. Je me figeais en découvrant notre visiteur. C'était la négresse de Nina. Le visage couleur de cendre, les habits déchirés et maculés de boue, les yeux fixes. Elle tenait dans ses bras le corps flasque de Justin. L'infirmière Oldsmith écarta les rideaux et observa la scène sous un autre angle à travers les lattes du volet. La fille leva un doigt longiligne et le pointa droit sur ma fenêtre, droit sur moi. « Mélanie !» Elle hurla si fort que je crus qu'elle allait réveiller tous les habitants du vieux quartier. « Mélanie, ouvre immédiatement ce portail !» Je ne parlerai qu'à toi. Son doigt resta pointé sur moi. Il me sembla qu'un long moment s'écoulait. Les courbes vertes du moniteur prenaient de plus en plus d'amplitude. Nous avons tous fermé les yeux, puis les avons rouverts. La négresse était toujours là, le bras toujours levé, le regard toujours aussi impérieux. exprimant une arrogance que je n'avais pas vue depuis la dernière fois que j'avais déjoué une manœuvre de Nina. Lentement, avec hésitation, j'envoyai Kelley ouvrir le portail, lui ordonnant de s'écarter avant que la créature envoyée par Nina ne puisse le toucher. Elle entra dans la cour d'un pas vif, se dirigea vers la porte et pénétra dans la maison. Le reste d'entre nous s'écarta pour la laisser passer lorsqu'elle franchit le seuil du salon. Elle posa Justine sur le divan. « Je ne savais pas quoi faire. Nous avons attendu. »